bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission du lundi destinée à vous faire aimer la lecture. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Exceptionnellement, la lecture de ce mois-ci se fait sur deux émissions. La première partie d'Inconnu à cette adresse vous a été diffusée lundi, il y a 15 jours. Rappelons-nous la première partie de l'histoire. Deux amis, l'un allemand, Martin Schulze, et Max Eisenstein, l'américain, sont installés tous deux aux USA et ont monté une affaire de vente de tableaux de maître à de riches clients. L'un d'eux, Martin Schulze, l'Allemand, a décidé de retourner en Allemagne en 1932 pour repérer des artistes et envoyer des tableaux aux États-Unis pour les vendre plus cher. Un échange épistolaire. Je rappelle qu'Internet n'existait pas à l'époque. Un échange épistolaire s'ensuit donc entre les deux amis. Dans les premières lettres, on comprend que Martin a vécu une aventure amoureuse avec la sœur de Max, Griselle. Elle-même actrice, actuellement en tournée en Autriche, dans une pièce à succès. La forte amitié, voire la complicité, transparaît dans les premiers échanges entre les deux amis. Mais après quelques lettres, Max s'inquiète de cette Hitler qui galvanise les foules en s'en prenant aux Juifs. Nous en étions là à la fin de la première partie. Aujourd'hui, nous reprendrons avec la réponse de Martine à Max.
San Francisco, USA, pour Martin Schulze, aux bons soins de Jimmy Lederer, Munich, Allemagne, le 1er août 1933. Mon cher Martin, je confie cette missive à Jimmy Lederer, qui doit brièvement séjourner à Munich lors de ses avances, ses vacances européennes. Je ne trouve plus le repos après la lettre que tu m'as envoyée. Elle te ressemble si peu que je ne peux attribuer son contenu qu'à ta peur de la censure. L'homme que j'ai aimé comme un frère, dont le cœur a toujours débordé d'affection et d'amitié, ne peut pas s'associer, même passivement, au massacre de gens innocents. Je garde confiance en toi et je prie pour que mon hypothèse soit la bonne. Il te suffit de me le confirmer par lettre dans un simple « oui », à l'exclusion de tout autre commentaire qui serait dangereux pour toi. Cela me convaincra que tu joues le jeu de l'opportunisme, mais que tes sentiments profonds n'ont pas changé, que je ne me suis pas leurré en te considérant comme un esprit libéral et droit, pour qui le mal est le mal, en quelque nom qu'on le commette. Cette censure, ces persécutions de tous les esprits libres, ces bibliothèques incendiées et cette corruption des universités susciteraient ton antagonisme, même si on ne levait pas le petit doigt contre ceux de ma race. Tu es un libéral, Martine. Tu vois les choses à long terme. Je sais que tu ne peux pas te laisser entraîner dans cette folie par un mouvement populaire qui, aussi fort soit-il, est foncièrement meurtrier. Je peux comprendre pourquoi les Allemands acclament Hitler. Ils réagissent contre les injustices qu'ils ont subies depuis la fin de cette guerre désastreuse. Mais toi, Martine, tu as pratiquement devenu un Américain durant cette période. Je suis convaincu que ce n'est pas mon ami qui m'a écrit cette lettre et que tu vas me le prouver. J'attends ce seul mot, ce « oui » qui rendra la paix à mon cœur. Écris-le vite. Mes amitiés à vous tous. Max.
Le 18 août 1933, à Mr. Max Eisenstein, Galerie Schulze Eisenstein, San Francisco. Cher Max, on m'a remis ta lettre. La réponse est non. Tu es un sentimental. Tu ignores que les hommes ne sont pas tous faits sur le même modèle que toi. Tu leur colles une gentille petite étiquette de libéral et tu t'imagines qu'ils vont agir en conséquence. Tu te trompes. Moi, un libéral, quasiment américain ? Jamais. Un patriote allemand. Un libéral est un homme qui ne croit pas à l'action. Il se contente de tenir des discours creux sur les droits de l'homme. Il fait tout un tapage sur la liberté d'expression. Mais qu'est-ce que la liberté d'expression ? Tout juste une bonne occasion de rester assis sur son derrière en critiquant ceux qui agissent. Existe-t-il plus futile qu'un libéral ? Non. Et je connais bien l'espèce pour en avoir fait partie. Ils reprochent au gouvernement leur passivité, leur incapacité d'instaurer le changement. Mais lorsqu'un vrai chef émerge, un homme actif qui se met à la tâche, quelle est alors la position du libéral ? Il est contre. Pour le libéral, tout changement est mauvais. Ce que tu nommes chez les bons esprits la vue à long terme des événements n'est qu'une peur intense de se retrousser les manches pour faire. Ils adorent les mots et les nobles préceptes, mais ils sont parfaitement inutiles à ceux qui font le monde. Seuls ces derniers, les hommes d'action, comptent. Et ici, en Allemagne, un de ces hommes énergiques est sorti du rang. Et je me rallie à lui. Non, comme tu le suggères, parce que, submergé par un courant, je ne peux faire autrement, mais par libre choix. Maintenant, je suis vraiment un homme. Avant, je n'étais qu'une voix. Je ne m'interroge plus sur la finalité de notre action. Elle est vitale. Donc, elle est bonne. Si elle était mauvaise, elle ne susciterait pas autant d'enthousiasme. Tu dis que nous persécutons les libéraux, que nous brûlons les livres. Tu devrais te réveiller. Est-ce que le chirurgien qui enlève un cancer fait preuve de ce sentimentalisme niais ? Il taille dans le vif, sans état d'âme. Oui, nous sommes cruels. La naissance est un acte brutal. Notre renaissance l'est aussi. Mais quelle jubilation de pouvoir enfin redresser la tête ! Comment un rêveur comme toi pourrait-il comprendre la beauté d'une épée dégainée ? C'est ce qu'est notre fureur. Mais tu n'as jamais rencontré un Hitler. Tu m'obliges à te répéter que tu ne dois plus m'écrire. Nous ne sommes plus en sympathie. Tu devrais t'en rendre compte. Martin Schulz.
Suelen días azules vestirse de gris, inundándolo todo, atrapándome a mí. Y no se asoma tu rostro a cantar, y no se asoma la luna en el mar cuando me faltas tú. Suelen días azules vestirse de gris, inundándolo todo, atrapándome a mí. Y no se asoma tu rostro a cantar, y no se asoma la luna en el mar cuando me faltas tú, cuando me faltas tú. Me desvela la noche y hace blanco mi andar, no me basta un buen sueño, te vuelvo a soñar. Rota una pena que invita a pasar, te realiza el llanto de mi canto al bar. Cuando me faltas tú, cuando me faltas tú, ya no sé lo que digo, ya no sé. es suerte la suerte que está por llegar. Porque apuesta que un día te voy a encontrar, para que acabe mi pena de amor y no se me olviden tu voz y tu olor.
Galerie Eisenstein, San Francisco, Californie, USA, pour R. Martin Schulz, sous couvert de la banque Deutsche Völkische, Munich, Allemagne, le 5 septembre 1933. Cher Martin, si joint la traite qui te revient et les comptes du mois, je suis dans l'obligation de te faire passer ce bref message. Griselle est partie pour Berlin. Elle est trop audacieuse. Elle a si longtemps attendu son succès qu'elle n'est pas prête à y renoncer. Et elle rit de mes craintes. Elle joue au théâtre Koenig. Tu es un fonctionnaire du régime. Je te conjure donc, au nom de notre vieille amitié, de la protéger. Va à Berlin si tu le peux et vois si elle n'est pas en danger. Tu seras chagriné de constater que j'ai été obligé de supprimer ton nom de la raison sociale de notre affaire. Tu sais qui sont nos principaux clients. Ils n'achèteront plus rien dans une maison qui porte un nom allemand. Je ne peux pas discuter de ton changement d'attitude, mais tu dois me comprendre. Je ne m'attendais pas à te voir prendre les armes pour mon peuple parce qu'il est mon peuple, mais simplement parce que tu étais un homme esprit de justice. Je te confie mon imprudente Griselle. Cet enfant ne se rend pas compte du risque qu'elle prend. Je ne t'écrirai plus. Adieu, mon ami. Max.
Galerie Eisenstein, Californie, USA, pour R. Martin Schulz, sous couvert de la banque Deutsche Völkische, Munich, Allemagne, 5 novembre 1933. Martine, je t'écris de nouveau car j'y suis obligé. Un sombre pressentiment m'habite. J'ai écrit à Griselle dès que j'ai su qu'elle était à Berlin et elle m'a répondu un mot très bref. Les répétitions se passaient brillamment et la pièce devait être incessamment à l'affiche. Ma seconde lettre, qui contenait plus d'encouragement que de mise en garde, m'a été retournée, non ouverte, avec la mention « Inconnue à cette adresse ». Quelles ténèbres véhiculent ces mots ? Comment pourrait-elle être inconnue au théâtre même où elle joue ? Il s'agit sûrement d'un message signifiant qu'il lui est arrivé malheur. On sait ce qui s'est passé, mais vous, vous n'en saurez jamais rien, disent ces cachets sur l'enveloppe. Elle est tombée dans une sorte de vide, et il est inutile de la chercher. Voilà tout ce que m'ont dit avec ces mots, inconnus à cette adresse. Martine, dois-je te demander de la trouver, de la secourir ? Tu as connu sa grâce, son charme, sa beauté. Elle t'a donné ce qu'elle n'a donné à aucun autre homme, son amour. N'essaie pas de m'écrire. Je sais que je n'ai même pas besoin de te demander ton aide. D'apprendre qu'elle est sans doute en danger suffit. Je la remets entre tes mains, car je n'ai aucun autre recours. Max. Galerie Eisenstein, Californie, USA, pour R. Martin Schulz, sous couvert de la banque Deutsche Völkische, Munich, Allemagne, le 23 novembre 1933. Martine, c'est par désespoir que je me tourne vers toi. Je ne pouvais pas laisser passer un mois de plus, c'est donc en avance que je te donne quelques précisions relatives à tes placements. tu pourrais vouloir effectuer certaines modifications, ce qui me permet de joindre à ce relevé bancaire un appel au secours. Il concerne Grisel. Depuis 2 mois, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. Mais des rumeurs en provenance d'Allemagne commencent à circuler. De juif à juif, on chuchote des histoires tellement horribles que je me boucherais les oreilles si je le pouvais. Mais je ne le peux pas. Il faut que je sache ce qui lui est arrivé. Il faut que j'aie une certitude. Elle a joué 1 semaine dans la pièce berlinoise, puis le public, apprenant qu'elle était juive, l'a conspuée. Cette magnifique et téméraire enfant est malheureusement têtue comme un âne. Elle leur a envoyé le mot « juive » à la figure, en leur disant qu'elle était fière de l'être. Certains spectateurs se sont levés, furieux, et ont sauté sur scène. Elle a couru dans les coulisses. Quelqu'un a dû l'aider car elle a réussi à sortir du théâtre et à trouver refuge dans une cave où se cachaient déjà d'autres familles juives. Changeant son apparence du mieux qu'elle a pu, elle a alors décidé d'essayer de rentrer à Vienne à pied, le train lui semblant trop risqué. Elle a dit aux gens qu'elle a laissés qu'elle serait en sûreté si elle pouvait arriver jusqu'à Munich, où elle avait des amis. « Mon espoir est qu'elle soit venue chez toi, car elle n'a jamais regagné Vienne. Envoie-moi un mot, Martine, et si elle n'est pas encore arrivée chez toi, fais une enquête discrète. Je suis fou d'inquiétude à l'idée qu'elle traîne sur les routes en pays hostile à l'approche de l'hiver. Dieu fasse que tu puisses m'envoyer un mot pour me rassurer. » Max.
Le 8 décembre 1933, Mr. Max Eisenstein, Galerie Eisenstein, San Francisco. Cher Max, je regrette beaucoup d'avoir de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ta sœur est morte. Malheureusement pour elle, elle s'est montrée stupide. Il y a 15 jours, elle est arrivée ici avec une horde de S.A. pratiquement sur ses talons. La maison était pleine de monde. Elsa n'est pas bien depuis la naissance du petit Adolphe le mois dernier. Le médecin était là, ainsi que 2 infirmières, tous les domestiques et les enfants qui couraient partout. Par chance, c'est moi qui ai ouvert la porte. Tout d'abord, j'ai cru voir une vieille femme, puis j'ai vu son visage. Et j'ai vu aussi les S.A. qui passaient déjà devant les grilles du parc. J'avais 1 chance sur 1000 de pouvoir la cacher. Une domestique pouvait surgir à tout moment. Avec Elsa couchée là-haut, malade, comment aurais-je pu supporter que ma maison fût mise à sac? Et pouvais-je courir le risque d'être arrêté pour avoir tenté de sauver une juive et de perdre tout ce que j'avais construit ici? Bien sûr, en tant que patriote, mon devoir m'apparaissait clairement. Elle avait montré sur scène son corps impur à des jeunes Allemands, je devais la retenir et la remettre sur le champ au SA. Mais cela, je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit « Tu vas tous nous faire pendre, Grisel. Cours vite te réfugier de l'autre côté du parc. » Elle m'a regardé dans les yeux, elle a souri, elle m'a dit « Te nuire est la dernière chose que je souhaite, Martine. » Elle a pris sa décision, elle a toujours été une fille courageuse. Elle devait être épuisée car elle n'a pas couru assez vite et les SA l'ont repérée. Je suis rentré, impuissant. Quelques minutes plus tard, ses cris se sont tus. Le lendemain matin, j'ai fait transporter son corps au village pour l'enterrer. C'était stupide de sa part d'être venu en Allemagne. Pauvre petite Griselage, je partage ta peine, mais comme tu vois, je ne pouvais pas t'aider. Maintenant, je dois te demander de ne plus m'écrire. Chaque mot qui arrive dans cette maison est désormais censuré. Et je me demande dans combien de temps à la banque ils se mettront à ouvrir le courrier. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les juifs, mis à part les virements bancaires et leurs reçus. C'est déjà bien assez fâcheux pour moi qu'une juive soit venue chercher refuge dans mon domaine. Je n'accepterai plus d'être associé d'une manière ou d'une autre avec cette race. Martine.
tes pieds, mon amour, à tout jamais je baiserai. Ta voix de velours, je m'incline et j'y obéirai. Telle une pompe à lourd, enfarinée, rococo parée, des plus beaux atours, à tes pieds je me jetterai. Vois comme je me couche, au sein de tes bras alanguis, rien ne m'effarouche, je suis ta diva, ton odalisque. À tes forteresses, en amour et je m'abandonne, pour l'éternité, je suis ta nana et ta madone.
Programme pour Martin Schulz, Munich, le 2 janvier 1934. Tes termes acceptés. Vérification compte du 12 novembre montre 13% de mieux. Le 2 février, quadruple assuré. Exposition peintre non accréditée, Berlin, 1er mai. Prépare-toi. Partir Moscou si marché s'ouvre inopinément. Instruction financière postée, nouvelle adresse, Eisenstein. Galerie Eisenstein, Californie, USA, pour R. Martin Schulz, Munich, Allemagne. Le 3 janvier 1934. Très chère Martine, n'oublie pas l'anniversaire de grand-maman. Elle aura 64 ans le 8. Des bienfaiteurs américains vont fournir 1000 brosses destinées à votre Ligue des jeunes peintres allemands. Mandelberg s'est joint à ceux qui soutiennent la Ligue. Il faudrait que tu envoies 11 reproductions de Picasso de 20 par 90 aux diverses succursales de notre galerie. Le 25 janvier, pas plus tôt, à dominante rouge et bleue. Nous pouvons te verser 8 000 $ sur cette transaction. Commence le nouveau livre de compte numéro 2. Nos prières t'accompagnent, cher frère. Eisenstein. Galerie Eisenstein, Californie, USA, pour R. Martin Schulz, Munich, Allemagne, le 17 janvier 1934. Martin, cher frère, bonne nouvelle! Notre stock atteignait 116 il y a 5 jours. Les Fleischmann nous ont avancé encore 10 000 $.
Cela devrait remplir pour un mois le quota de la Ligue des jeunes peintres. Même si les occasions sont plus nombreuses, fais-le nous savoir. Les miniatures suisses sont en vogue. Surveille le marché et prépare-toi à partir pour Zurich après le 1er mai si des occasions inattendues se présentent en plus grand nombre. L'oncle Salomon sera content de te voir et je sais que tu te fieras les yeux fermés à son jugement. Le temps est clair, il n'y a aucune menace précise d'orage pour les 2 mois à venir. Tu vas préparer pour tes étudiants les reproductions suivantes. Van Gogh 15x103 en rouge, Poussin 20x90 en bleu et jaune, Vermeer 11x33 en rouge et bleu. Nos espoirs accompagnent tes nouvelles tentatives. Eisenstein. Galerie Eisenstein, Californie, USA. Le 29 janvier 1934. Chère Martine, ta lettre est arrivée par erreur au 457 Gary Street. Tante Reba dit de dire à Martine d'écrire plus brièvement et surtout plus clairement pour que ses amis puissent comprendre de quoi elle parle. Je suis sûr que tout le monde attend avec impatience la réunion de famille du 15. Tu seras fatigué après toutes ces festivités et tu souhaiteras peut-être amener ta famille avec toi lors de ton voyage à Zurich. Néanmoins, avant de partir, en vue de l'exposition conjointe qui aura lieu en mai ou avant, tu dois fournir à nos succursales de la Ligue des jeunes peintres allemands les reproductions suivantes. Picasso 17x81 en rouge, Van Gogh 5x42 en blanc, Rubens 15x204 en bleu et jaune. Nous sommes avec toi par la prière, Eisenstein.
Le 12 février 1934, Mr. Max Eisenstein, Galerie Eisenstein, San Francisco. Max, mon vieil ami. Mon Dieu, Max, sais-tu ce que tu es en train de faire? Je vais devoir essayer de faire sortir clandestinement cette lettre en la confiant à un Américain que j'ai rencontré ici. Tu ne peux imaginer mon désespoir. Ce télégramme fou, ces lettres que tu m'as envoyées, rien de tout cela ne m'est parvenu directement. Mais on m'a convoqué, ils me les ont montrées et m'ont sommé de m'expliquer. Ils exigent que je donne les codes. Quels codes ? Comment toi, un ami de toujours, peux-tu me faire une chose pareille ? Te rends-tu compte que tu es en train de me détruire ? Les résultats de ta folie sont déjà terribles. On m'a révoqué de mon poste de fonctionnaire. Heinrich a été renvoyé des jeunesses hitlériennes sous le prétexte qu'il a une trop petite santé pour militer dans cette organisation. Dieu du ciel, Max, ne comprends-tu pas ce que cela signifie? Et Elsa, à qui je n'ose rien dire, qui ne comprend pas pourquoi les notables locaux refusent soudain ses invitations. Et le baron von Freisch, qui ne la salue plus quand il la rencontre dans les rues. Oui, bien sûr, je sais pourquoi tu fais ça. Mais ne vois-tu pas que je ne pouvais pas intervenir, quand je n'ai même pas osé tenter d'intervenir? Je t'adjure maintenant, du fond de l'âme, d'arrêter, non pour moi, mais pour Elsa et les garçons. Pense à ce que cela signifierait pour eux si on m'emmenait et qu'ils ne sachent même pas si je suis vivant ou mort. Sais-tu ce que c'est d'être envoyé dans un camp de concentration? Veux-tu vraiment me coller le dos au mur et pointer une mitraillette sur moi? Je t'en supplie, cesse. Cesse maintenant que tout n'est pas encore perdu. Désormais, c'est pour ma vie que je crains. Max, pour ma vie. Est-ce bien toi qui commets cette erreur? toi mon bon vieux Max que j'ai aimé comme un frère. Tu n'as donc pas de pitié. Assez, je t'en supplie, arrête, tant qu'on peut encore me sauver. C'est du fond de mon cœur, rempli pour toi d'une vieille affection que je t'implore. Martine.
No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but yourself will die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? I'm talking to you, Jailer. Suppress all my strategies. You oppress every part of me. What you don't know, you're a victim too, Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him ease without sin. Be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man. Marketplace, don't throw stones. Even if you do, you just might hate one of your own. Life is not about your policies all the time, so you better rearrange your philosophies. I'll be good to your fellow, my data. Stop calling me a prisoner. Let him who is without sin be the first that cast the stone.
Galerie Eisenstein, Californie, USA, pour R. Martin Schulz, Munich, Allemagne, 15 février 1934. Notre très chère Martine, il pleut ici depuis 18 jours. 17,5 cm d'eau dans les rues. Quelle saison pourrie! Une cargaison de 1500 brosses à l'usage de tes jeunes peintres, devrait parvenir à la succursale de Berlin à la fin de la semaine. Cela te laisse du temps pour s'entraîner en vue du grand événement. Des mécènes américains t'aideront en te fournissant tout le matériel d'artiste qu'ils pourront. Mais ce sera à toi de t'occuper des derniers préparatifs. Nous sommes trop coupés du marché européen. Toi, en revanche, tu es en position d'apprécier l'étendue du soutien dont bénéficierait en Allemagne une telle exposition. Pour le 24 mars, prépare-toi donc à distribuer Rubens 12x77 en bleu, Giotto 1x317 en vert et blanc, Poussin 20x90 en rouge et blanc. Le jeune Blum est parti vendredi dernier avec les précisions sur le Picasso. Il déposera les huiles à Hambourg et à Leipzig et se tiendra ensuite à ta disposition. Avec tous nos souhaits de réussite, Eisenstein. Galerie Eisenstein, San Francisco, USA. Le 3 mars 1934. Martine, notre frère. Le cousin Julius vient d'avoir deux garçons de 4,5 kilos. Toute la famille se réjouit. Nous considérons le succès de ta prochaine exposition d'artistes comme assuré. La dernière cargaison de toile a été retardée en raison de certains problèmes concernant les communications internationales, mais elle parviendra en temps voulu à tes associés berlinois. Tu peux considérer que la reproduction de la collection est achevée. Ton meilleur soutien devrait provenir des enthousiastes de Picasso, mais ne néglige aucune autre piste. Nous laissons les plans finaux à ta discrétion, mais fais en sorte d'avancer la date de l'exposition pour qu'elle soit un vrai succès. Que le Dieu de Moïse soit à ta droite. Eisenstein.
La dernière lettre de Max Eisenstein à Martin Schulz lui reviendra avec la mention inconnue à cette adresse. We'll be right back. C'était donc Bouillon de lecture. Merci Thierry. Merci Hervé. Hervé et Thierry viennent de nous lire donc Inconnu à cette adresse de Chrisman Taylor, livre, si je me souviens bien, paru en 1938 dans une revue et publié en 1939.
Sous forme de livre.
Sous forme de livre et publié en France seulement en 2002, je crois.
En 2002, oui.
En 2002.
Et où va-t-il chercher tout ça ?
Eh oui.
Sur Wikipédia,
tout simplement. Bien, Hervé, pour une prochaine lecture, as-tu déjà choisi le livre que tu nous présenteras ?
Tout à fait. J'ai choisi Le quatrième mur de Sorge Chalandon.
Un grand auteur.
Un grand auteur français.
Journaliste à Libération, je crois. Et auteur de nombreux autres livres que j'aime beaucoup personnellement. Mon traître, Retour à Quilibegs. Et un autre dont je n'ai pas retenu le nom, mais que je vous conseille de lire aussi.
Et ce quatrième mur, c'est celui qui est en train de construire Donald Trump ou pas ? Non, ça n'a rien à voir.
Absolument pas. Absolument pas. C'est un mur fictif qui se trouve à Beyrouth. C'est le mur qui est représenté par les phalanges armées qui se battent au moment de la guerre. En 1980, 82, juste avant les massacres de Sabra et Shatila.
Oui, puis on peut aussi dire que c'est le mur qui sépare, enfin, c'est ce que lui dit, c'est le mur qui sépare les comédiens du public.
Et un peu aussi les communautés qui vivent, qui vivent à Beyrouth. Oui,
du coup, le titre est évident, quoi.
Bien, on est en train de polluer un petit peu la prochaine émission. Bien, je vous donne rendez-vous à tous. Le mois prochain, c'était Bouillon de lecture. Merci de nous avoir écoutés.
Merci.
Et à bientôt.
Merci.